Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de 90 Minutes Info. Je vous présente dans un instant les thèmes dont nous allons débattre ensemble. Juste après, le rappel des titres, il est signé Somaïa Labidi aujourd'hui. C'était long.
Une marée humaine devant la cathédrale de Milan pour les funérailles d'État du Cavaliere. Les Italiens se sont déplacés en nombre pour assister aux obsèques de Silvio Berlusconi. À Milan, comme partout en Italie, les drapeaux sont en berne sur les édifices publics pour cette journée de deuil national. Une première pour un ex-ministre qui n'est cependant pas du goût de toute la population. Deuxième jour du procès de Gabriel Fortin, dit le tueur de DRH. Ses proches le décrivent comme paranoïaque, discret et imprévisible. Hermétique aux appels de sa mère à s'expliquer, il s'est campé en victime d'un système. Pour rappel, l'ancien ingénieur au chômage est accusé d'avoir tué une cadre de Pôle emploi et deux anciens DRH qu'il avait licenciés lors d'un périple sanglant en janvier 2021. Et puis le bilan du naufrage de migrants en Grèce s'alourdit à 78 morts. L'embarcation a chaviré à 47 000 marins des côtes grecques dans les eaux internationales. 104 personnes ont pu être secourues jusqu'ici, dont 4 ont été hospitalisées dans la ville proche de Kalamata.
C'est au programme aujourd'hui. Le bac en poche, l'expression n'a peut-être jamais été aussi vraie. Certains l'avaient déjà en partant à l'épreuve de philo ce matin. Alors, le bac version Blanquer a-t-il complètement perdu de sa saveur? Écoutons.
Cette refonte du bac et c'est ce calendrier qui est vraiment absurde.
Nous devons y travailler et puis prendre les mesures qui s'imposent à l'automne pour que l'année prochaine, ce troisième trimestre soit un trimestre de travail, soit un trimestre utile.
Nous parlerons également de ce rebondissement en Vendée aujourd'hui, 2 mois après la disparition de Karine Esquivillon, cette mère de famille de 54 ans. Son mari a été placé en garde à vue. Aujourd'hui, on viendra bien sûr à l'enquête qui a été élargie à des faits de meurtre.
Ce sont des schémas, des configurations donc, de disparition qui sont connues, hein, qui reviennent de temps en temps. Ceci dit, elles ne sont pas si fréquentes que ça, mais elles sont quand même récurrentes dans le temps.
Enfin, il sera question de soulèvement de la Terre, ce mouvement écologiste qui agit impunément, pied de nez à l'exécutif qui avait pourtant promis de le dissoudre. L'affaire est toujours en cours.
Il ne suffit pas de prétendre défendre une cause pour le faire de manière sérieuse, que même derrière des principes, des valeurs qui sont censées être portées en étendard, il y a des comportements qui sont inacceptables, qui doivent être condamnés et qui, effectivement, pourraient conduire à des interdictions.
Et pour m'accompagner cet après-midi, j'ai grand plaisir à retrouver Judith Vintraube. Bonjour Judith, je rappelle que vous êtes grand reporter au Figaro Magazine. Merci d'être là. À vos côtés, Thomas Scarpellini qui est juriste.
Bonjour Nelly.
Bienvenue à vous également. Et Paul Melun, que je n'avais pas vu dans ce format d'émission. Paul, bonjour, je rappelle que vous êtes essayiste. Alors, je vous le disais, on va parler du bac nouvelle formule. L'épreuve de philo, c'était ce matin. Cette sacro-sainte épreuve qui figure toujours au programme et qui ouvrait donc le bal sur place. Retrouvons notre reporter, Émilie Gougache.
Le bonheur est-il affaire de raison ou encore l'art nous apprend-il quelque chose? Voilà deux des sujets sur lesquels les élèves de terminale générale et technologique ont eu à plancher pendant 4 heures ce matin. Si l'épreuve de philosophie peut être redoutée par certains, vous allez l'entendre. Ici, au lycée Claude Bernard, les élèves de terminale étaient plutôt détendus.
Vu qu'on a déjà nos notes de spécialité, bah on s'en fiche un peu de la... Enfin, on sait déjà un peu si on va avoir le bac. Du coup, bah, j'y suis un peu allée à l'aide de mes connaissances, quoi.
Bah, j'avais révisé quelques notions et c'est tombé sur celles que je voulais, donc voilà, c'est bien passé.
J'étais pas trop stressé, on va dire. J'allais plus pour avoir une mention que pour avoir mon bac. Donc ça m'a un peu facilité la tâche, on va dire.
Un sentiment de sérénité grâce à leurs notes de spécialité, mais aussi leurs notes de contrôle continu qui leur permettent pour certains de pouvoir se permettre de viser uniquement la mention. Alors pour les prochaines épreuves, ce sera le grand oral à partir du 19 juin et les résultats du bac sont attendus le 4 juillet.
Alors Paul Melun, forcément on y va un peu moins la peur au ventre. C'est dommage, vous vous dites, au fond, pourquoi pas, il faut arrêter d'être un peu réac sur toutes ces questions et se dire, on n'est pas obligé de terroriser les
suites.
C'était toujours mieux avant, il faut évoluer.
En tout cas, on est vite accusé d'être dans le « c'était mieux avant » et dans la réaction. Lorsqu'on dénonce, eh bien, un baccalauréat dont la valeur a diminué, c'est sûr. On fait ce procès. Maintenant, je vais me mettre dans la peau du réac que je dois être, ou du réac qui s'ignore, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, je pense effectivement que le baccalauréat a perdu de sa valeur, qu'il a perdu de sa sacralité. Quand vous voyez ces élèves qui arrivent et qui vous disent « bon, voilà, je viens, mais enfin, c'est peut-être pour avoir une mention, mais je sais que j'ai déjà mon baccalauréat », on voit bien que cet élément de passage qui était le baccalauréat, qui était un passage entre l'enfance ou l'adolescence et la vie adulte, qui est aussi un moment de maturation intellectuelle, etc., eh bien, est totalement gommé avec ces histoires de spécialité, de contrôle continu, oui, qui diluent une fois encore les savoirs. Et donc, si effectivement les sujets de philosophie étaient très intéressants et que les programmes sont aussi très intéressants sur une variété de matières, le fait que ce soit abordé de cette façon-là fait que les élèves, lorsqu'ils arrivent et lorsqu'ils repartent, eh bien, c'était comme si ce n'était pas passé grand-chose. Et qu'on arrive à des taux de réussite du baccalauréat qui sont absolument extraordinaires, si vous voulez, qui sont fous et qui reflètent en rien le niveau des élèves. C'est pas parce que le baccalauréat, aujourd'hui, 80 et quelques % des gens l'ont, que, si vous voulez, le niveau a progressé, bien au contraire, par rapport à ce qu'on observait il y a quelques décennies sur les pourcentages de réussite au bac. On voit bien que le bac est aujourd'hui délivré de façon quand même très, très large.
Écoutez aussi ces quelques bémols émis par un prof de philo qu'on a sondé et qui, lui, parle au fond d'une forme de décrochage avant la fin de l'année scolaire, parce qu'il y a une sorte de trimestre entier qui est sacrifié au passage. Écoutons.
C'est vraiment cette refonte du bac et c'est ce calendrier qui est vraiment absurde, hein, parce que voilà, cette redéfinition du bac, elle était faite au nom d'une idéologie qu'ils appellent donc la reconquête du mois de juin, et ce dont on s'est tous aperçu, c'est que finalement maintenant c'est le mois d'avril et le mois de mai qu'il faudrait reconquérir, puisque finalement on voit voilà cet absentéisme, cette difficulté à s'intéresser autant, alors qu'avant avec des épreuves terminales, oui, il y avait au moins ce cadre qui faisait que jusqu'au bout, bah, les élèves étaient beaucoup plus présents.
Et ça entraîne forcément un déficit d'apprentissage sur la durée, hein, puisque pendant 3 mois, en gros, ce qu'on comprend, c'est qu'on n'apprend pas grand-chose, Judith Vintraube.
Oui, j'aime beaucoup le nom « Reconquête du mois de juin ». Oui. L'éducation nationale s'est fait une spécialité des noms absolument ronflants. Bon, alors, puisque c'est un concours, je vais être plus réac que Paul Melun qui a fait ce qu'il pouvait
pour ça être réac. Pardon, qu'ai-je dit ?
Je crois que le naufrage du bac que Paul décrivait à juste titre a assez peu à voir avec ses modalités.
Il était antérieur.
Oui. Il était très antérieur.
Ça a à voir avec le niveau d'apprentissage.
Ça a à voir avec le gouvernement socialiste. De mémoire, c'était Laurent Fabius qui a expliqué que son objectif était d'emmener 95% à l'époque des élèves au niveau du bac. Moyennant quoi, les ministres de l'éducation qui se sont succédés n'ont eu de cesse que d'emmener le bac au niveau de 95% des élèves, puisque maintenant c'est plus de 90% de réussite. Alors, problème, il est là. Il n'est pas dans l'équilibre.
Mais parmi les objectifs,
examen final, que par ailleurs, moi je trouve ça pas mal que le contrôle continu entre en compte,
soit pris en compte,
parce que c'est vrai que les coups de malchance, ça arrive. Tout est
Thomas Scarpellini, quelque chose me dit que vous serez encore plus réac que les autres, non?
Oui.
Parce que vous faites l'amour quand il s'agit de parler du contrôle continu.
Évidemment. Alors, trois petites choses. La première, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit, sauf que la particularité, c'est que vous avez dit que c'est un concours, c'est que c'est un examen. La différence entre concours et examen, c'est que concours, il y a un numerus clausus. On doit prendre que X, 20, 30%. Or, le bac, en ce qu'il y a un examen, on peut ramener 100% des gens à la réussite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté de stratifier un niveau de réussite.
Vous voulez transformer en concours, vous ?
Ah non. Quoique, vous savez, dans certains, en Allemagne, que ce soit l'Abitur, dans certains pays scandinaves, on fixe d'office, en fonction des places qu'on a dans l'université, le nombre de personnes admises à rentrer au supérieur, délivrables par l'équivalent du baccalauréat. Mm-hmm. C'est la première chose. La deuxième, sur la dualité et la reconquête du mois de juin, on paye le en même temps. Je suis d'accord pour du contrôle continu. Mais alors, quel est l'intérêt du concours terminal, de l'examen terminal ? Autant faire un choix. Vous savez, dans tous les pays de l'OCDE ou presque, c'est que du contrôle continu.
Alors, j'aurais mis... Pardon, allez-y. Oh, je crois que vous avez fini. Ah, allez-y, allez-y.
La France a voulu harmoniser, mettre un petit peu de contrôle continu, mais garder l'examen final. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que pour rater l'examen final, à part écrire en hiéroglyphe ou en copie blanche, ça demande quand même un exploit presque surhumain. Donc oui, évidemment, le bac aujourd'hui est plus un bout de papier qu'une véritable clé d'accès à la réussite.
Je parlais de concours de réac, de concours à propos du bac.
Le concours du réac. Et là, il y a un numéros clausus.
Et là, on va décerner une place peut-être. Et là,
c'est à vous de partager, Nelly.
On va aussi sonder l'avis de Jean-Rémy Girard, qui est avec nous via Skype, président du SNALC. C'est un syndicat de lycées et collèges. Bonjour, vous avez entendu le début de cette conversation. Bonjour. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent bon, il fallait réformer et cette réforme est adéquate, c'est la bonne, ou on sent maintenant qu'il faut peut-être un retour d'expérience parce que ça pêche, même pas Pendiaï le reconnaît, il y a quelques ratés quand même au démarrage.
Oui, déjà quand le ministre lui-même dit que ça, il faudrait faire des choses parce que c'est pas formidable, c'est qu'a priori ça s'est très mal passé. Donc on peut pas dire que c'est une réussite. Hein, on peut dire que ça n'a pas marché pour le coup. Et c'est pour ça que le SNALC a d'une part fait une enquête auprès des collègues de lycée. On a eu plus de 4000 réponses sur la question notamment de l'absentéisme des élèves suite aux épreuves de mars et suite au moment où ils ont eu leurs résultats. En avril, puisque l'une des lycéennes le disait très bien dans votre reportage, elle savait déjà qu'elle avait son bac. Du coup, la philosophie, elle y allait plus tranquillement. Et effectivement, les collègues nous remontent majoritairement de l'absentéisme. En voie générale, c'est 50% des collègues qui nous disent qu'il y a quelques absents en plus, 20% qu'il y a beaucoup d'absents en plus. En voie technologique, 40% des collègues nous disent qu'il y a quelques absents en plus, 40% des collègues nous disent qu'il y a beaucoup d'absents en plus. Donc c'est pas que le bac, et là on peut tout à fait avoir la discussion qui est déjà sur votre plateau sur que vaut le bac aujourd'hui, le contrôle continu, pas le contrôle continu. Nous on pense que le contrôle continu n'a rien à faire au bac parce qu'il est déjà tout dans Parcoursup, donc que le bac soit autre chose que Parcoursup dans ces cas-là et qu'il soit un examen terminal, ça nous paraît plutôt une bonne chose. Mais... en revanche, ce qui s'est passé, c'est que là on a déstructuré l'année de terminale. Et le problème n'est pas juste la valeur du bac, même si c'est aussi un problème. Le problème, là, c'est le fonctionnement de l'année de terminale. C'est pour ça qu'on va rencontrer le ministre. On a demandé une audience à la fin du mois de juin, le SNALC, qu'on va rencontrer le ministre, qu'on va lui transmettre les résultats de notre enquête et qu'on va argumenter, puisque pour nous, les épreuves en juin, c'était un bien moins mauvais système que ce bac au fil de l'eau, certaines épreuves par-ci, plus du contrôle continu un peu tout le temps.
Mais avec quelles conséquences? Parce que pour qu'on comprenne quand même, ça veut dire que les élèves, pendant 3 mois, ne se présentent pas en cours, qu'ils ont une forme d'errance comme ça, ils sont complètement démotivés, ils jouent, ils ne viennent pas, qu'est-ce qui se passe?
Ça dépend des élèves. Évidemment, il n'y a pas un comportement unique. Et comme je vous l'ai dit, il peut être différent ou pas dans les mêmes proportions suivant où on est. Suivant qu'on est, par exemple, en voie générale ou en voie technologique, on ne constate pas les mêmes proportions. Certains élèves ne viennent plus, c'est-à-dire qu'on ne les voit plus, très clairement. D'autres élèves viennent à certains cours, mais pas à d'autres également. Et effectivement, c'est beaucoup plus relâché, on va dire, puisqu'il y a quand même beaucoup moins d'enjeux. Alors qu'en réalité, il y a des enjeux, puisque l'année scolaire n'est pas finie, les programmes scolaires ne sont pas finis non plus. Ce troisième trimestre qui a été vraiment massacré par ce bac, il est important. Des collègues de physique-chimie nous disaient, par exemple, qu'énormément d'éléments très utiles pour poursuivre en études de médecine n'était pas dans les programmes des épreuves de mars et donc était dans ce qui allait être enseigné.
En un mot, dans ce que vous allez préconiser, vous allez dire quoi? Il faut revenir sur le ratio du contrôle continu ou il faut changer complètement le calendrier des épreuves?
Alors les deux. Nous, on pense que, un, il ne faut pas mettre les épreuves de spécialité en mars. C'est catastrophique. Ça supprime beaucoup d'heures de cours, en plus, non seulement pour les élèves de terminale, mais aussi pour les élèves de première et de seconde, puisqu'on fait passer les épreuves. On fait passer les épreuves expérimentales, les épreuves orales, on corrige les copies, tout ça pendant les heures de cours, en réalité. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, le contrôle continu, c'est pénible, en réalité, puisque nous, on fait la course aux élèves, puisque maintenant, comme ils savent que le contrôle continu est dans le bac, s'ils ont une bonne note à un contrôle, malencontreusement, certains d'entre eux sont plus présents au contrôle suivant. Donc, il faut leur faire passer des épreuves de rattrapage, c'est-à-dire qu'on est en train de leur faire passer des épreuves de bac toute l'année, en réalité. Et certains, d'ailleurs, stressent beaucoup là-dessus. Certains élèves ont l'impression de passer le bac pendant 2 ans.
Merci beaucoup. Restez avec nous si vous le voulez. On va bien sûr élargir sa discussion. Peut-être des réactions que ça suscite en plateau, oui.
Oui, parce que ce que dit monsieur est très intéressant. Et on a le sentiment que derrière cette réforme du bac, il y a une forme de stratégie qui prolonge un peu la généalogie du baccalauréat depuis Fabius que nous faisait fort justement Judith, qui est de dire aujourd'hui, on va vraiment donner le bac à tout le monde. Et on agit vraiment, si vous voulez, à découvert. C'est-à-dire qu'on dit, on va faire ce contrôle continu. Alors monsieur nous explique que ça démobilise un certain nombre d'élèves, par exemple, qui après vont être démissionnaires parce qu'ils vont dire, après tout, j'ai une bonne note à un contrôle, donc plus la peine finalement que je travaille trop. Et en fait, on va aller comme ça tranquillement vers la confirmation d'un phénomène qui est majeur en France, qui est celui de la massification. C'est-à-dire qu'on va envoyer tout le monde dans les universités, considérant que c'est ça finalement une grande politique sociale, incluante, inclusive. Pas du tout. Parce qu'en fait, on crée un système qui, dans l'enseignement supérieur et la recherche, est à deux vitesses. Puisque les très bons vont quand même faire des bonnes prépas, que les très grandes prépas parisiennes sont toujours aussi sélectives, toujours aussi compliquées pour les élèves, et que derrière, ça va faire des gens qui vont entrer dans des grandes écoles, etc., etc., tout en dévaluant le niveau de nos universités publiques, qui, elles, ne peuvent plus rivaliser avec les autres universités du classement de Shanghai, notamment aux États-Unis. Donc, en fait, on sape totalement l'enseignement supérieur par ces réformes du bac et par cette facilité offerte aux élèves. Donc, je pense que c'est très dangereux.
Judith.
Oui, et il me semble qu'en plus, le système est complètement pyramidal au détriment de formations qui ne sont pas des formations généralistes.
Mais si vous dites ça à gauche, on vous dit c'est voie de garage direct, vous voulez sacrifier toute une génération.
Je sais.
C'est limitant.
Et ça m'émeut assez peu, voyez-vous, parce que je préfère un jeune qui est heureux dans une filière qui lui convient et qu'il aura choisi et pas où il sera retrouvé parce que précisément il n'aura pas été capable de suivre l'enseignement général que quelqu'un qui va s'enquiquiner des années importantes de son développement et ensuite échouer parce qu'il y a un taux d'échec énorme de la première à la deuxième année d'université.
Et d'autant qu'on le verra aussi, mais c'est une émission à tiroir un peu, sur le plan des débouchés professionnels, on va voir aussi tout à l'heure que l'intelligence artificielle va sans doute révolutionner le secteur tertiaire, qui est généralement celui vers lequel se dirigent ceux qui entament des cursus universitaires. J'aimerais quand même vous faire réagir au sujet de philo du jour, puisqu'ils sont tombés assez tôt. Vous savez, au bout d'une heure, il y a ceux qui ont le droit de partir. Donc déjà, ils divulguent les sujets. Allez, on vous donne les deux en filière générale qu'on a retenu ce matin. Le bonheur est-il affaire de raison ou encore vouloir la paix? Est-ce vouloir la justice? Et puis, je crois que le troisième sujet, c'était un texte de Lévi-Strauss, issu de la pensée sauvage. Ça vous inspire, comme ça? Allez, vu comme ça, il y en a un qui a plus trait à l'actualité que les autres, peut-être, Thomas Carpellini.
Oui, évidemment, vouloir la paix, est-ce vouloir la justice? J'aimerais beaucoup voir la copie d'Emmanuel Macron sur la question. En effet, c'est cette éternelle dualité entre la paix et la justice, entre quelque chose de juste et quelque chose qui est attendu. Et si on doit le mettre au point de vue de faire une sorte d'analogue avec la situation actuelle, Emmanuel Macron qui a voulu les 100 jours d'apaisement, en l'espèce la paix, peut-il l'avoir au détriment de rendre la justice sociale qui est attendue par les Français massivement dans la rue contre sa réforme des retraites? Donc ce serait vraiment extrêmement intéressant d'avoir l'avis d'Emmanuel Macron sur ce sujet.
Paul Melun, avez-vous choisi le même auriez-vous choisi le même, avez-vous choisi, vous l'avez passé, je ne sais pas, candidat libre, auriez-vous choisi le même sujet ce matin?
Non, moi j'aurais pris en sec le bonheur est-il affaire de raison. Je trouve le sujet du bonheur très intéressant. D'abord, j'aurais commencé par me poser la question de savoir si l'horizon indépassable de l'homme était vraiment d'être heureux. Si le bonheur était finalement, parce qu'on nous parle beaucoup de ça dans le développement personnel, etc.
C'est la finalité.
Et j'aurais incité les élèves d'abord à se poser cette première question qui paraît être l'antithèse du sujet, mais qui est pour moi très intéressante. Et ensuite, la question de la raison. De fait, non, beaucoup, beaucoup de choses très heureuses sont de l'ordre de la déraison. Et le sujet de la déraison à notre époque est très intéressant là aussi. Et je crois que c'est à mettre en perspective avec un certain puritanisme à certains égards, avec un certain nombre de barrières au bonheur qu'on essaie de mettre ça et là. Donc je pense que là, il y a un très très bon sujet et qu'il y aurait moyen de faire. Alors il faudrait nuancer un peu plus ce que je dis avec un petit thèse-antithèse, parce que sinon, ce sera un peu trop...
Alors, sur la construction, je vous mets un petit 18 comme ça, hein, parce que déjà, on a tout compris, c'est déjà limpide comme intitulé. Regardez, on ne résiste pas au plaisir de vous montrer la manière dont... Louis Boyard, député LFI, vous savez,
a répondu au sujet de Filot.
En fait, il a détourné le truc et il a créé son propre, sa propre épreuve. La question 1, une démocratie qui empêche ses députés de voter est-elle encore une démocratie? On parlait d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Et deuxième sujet, la retraite est-elle réelle si on meurt avant de l'atteindre? Vous trouvez ça drôle? Bon, il y a quelque chose de cocasse ou vous trouvez ça pathétique, Judith Vintraube?
Il a fait beaucoup plus pathétique.
Ah, ça va.
C'est presque intelligent pour Louis Boyard.
D'accord. Ça a pas mal inspiré.
Allez, j'aimerais aussi, on va remercier évidemment Jean-Rémy Girard de nous avoir accompagnés. Évidemment, on vous garde si vous avez un petit commentaire à faire, ne serait-ce que sur les intitulés de sujets. Est-ce que vous n'êtes peut-être pas prof de philo d'ailleurs du tout?
Je ne suis pas prof de philo, je suis prof de lettres, donc je laisse aux professeurs de philo la philosophie, même si je travaille avec eux, puisque j'enseigne, grâce à la réforme du bac, la spécialité humanité, littérature et philosophie. Maintenant, on travaille ensemble. Moi, je suis côté littérature. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que ce sont des sujets tout à fait classique hein, de philosophie, et d'ailleurs que les programmes de philosophie sont des programmes d'une remarquable stabilité, ce qui montre bien que la philosophie garde toute son importance et toute son actualité, qu'on n'a pas besoin de la changer tous les quatre matins pour qu'elle ait un sens pour les élèves du 21e siècle par rapport à ceux du 20e siècle.
Restez avec nous parce qu'en fait...
qu'il a gagné le concours du plus réactif.
À la réflexion, j'aimerais vous sonder sur le sujet qui suit. Bon, c'est un sujet un peu connexe parce que ça touche au monde universitaire. On a beaucoup parlé de l'écriture inclusive. Il y a eu des dossiers dans la presse quotidienne cette semaine disant que l'écriture inclusive... faisait creuser son sillon au sein des universités, mais au-delà, dans nos institutions. Et donc, on a réalisé ce sondage. Ce sondage, à la question « Faut-il l'interdire à l'université ?», regardez ce que répondent les Français qui ont été approchés, qui ont été sondés. Dans leur grande majorité, on a un gros souci technique, mais bon, dans l'immense majorité, ils sont quand même contre. C'est 6 sur 10 qui sont contre son arrivée à l'université. Est-ce que, c'est 58-41, mais après, selon l'appartenance politique, bien sûr, on ajuste un petit peu le tir. Alors évidemment, à gauche, on est moins rétif, alors qu'à droite, ce sentiment qu'il faut l'interdire est renforcé. Vous voyez, 53%, on passe à 66% quand il s'agit de la droite. Qu'est-ce que ça vous inspire, comme ça, à la volée, Judith?
Alors, ça m'inspire qu'une toute petite minorité dicte sa loi à la majorité. Édouard Philippe, quand il était Premier ministre, a fait une circulaire pour interdire l'usage de l'écriture inclusive dans les administrations, qui s'en fiche à peu près totalement, selon les administrations, y compris celles rattachées au plus haut sommet de l'État, je pense au Conseil pour l'égalité femmes-hommes, et que, évidemment, si l'exemple ne vient pas d'en haut, c'est pas en bas que les choses vont s'améliorer. Moyennant quoi, on a des profs, primaires, secondaires, et des profs d'université, qui se permettent de sanctionner les élèves qui n'utilisent pas l'écriture inclusive, en toute impunité.
Jean-Rémy Girard, en quelques secondes, l'écriture inclusive pour vous, c'est oui ou c'est non? Ça complique la donne? On parlait du niveau des élèves, est-ce que ça va encore l'appauvrir?
Alors, c'est pas ça qui va l'appauvrir. Nous, c'est non à l'école, en tous les cas, dans le sens où déjà, c'est pas dans les programmes, donc on n'a pas à l'enseigner. Et d'autre part, pour maîtriser l'écriture inclusive, ou du moins ce qu'on appelle le point médian, les tirs, les choses comme ça, puisque le fait de dire mesdames, messieurs, c'est inclusif, mais c'est pas de l'écriture inclusive. Ça nécessite déjà d'arriver à faire les accords, hein, c'est-à-dire les accords au féminin, les accords au pluriel. Et aujourd'hui, on est en chute libre sur ces choses-là. Donc j'ai envie de dire que pour arriver même à maîtriser l'écriture inclusive, il faut déjà que nous, on arrive à faire notre travail correctement, d'enseigner la grammaire et qu'on soit pas empêché d'avoir un enseignement structuré sur un temps suffisant de la grammaire française. Or, on a la grammaire française, elle a beaucoup souffert hein, depuis, j'allais dire, les années 90 et les horaires de français.
Merci.
Aussi. Donc aujourd'hui, nous, notre problème, ce n'est pas l'écriture inclusive. En tant que telle, à l'école, c'est très, très peu répandu. Hein, à l'école, en tous les cas, à l'université, c'est autre chose. Mais c'est vraiment l'enseignement du français lui-même.
Merci beaucoup, Jean-Rémy Girard, d'avoir répondu à toutes nos questions. On va se quitter dans un instant, mais j'aimerais qu'on fasse un détour par Milan, parce que vous le savez, c'est aujourd'hui qu'ont lieu les obsèques de Silvio Berlusconi. Regardons les obsèques dans la cérémonie qui débute dans cette cathédrale milanaise qui est mondialement connue, avec une foule qui s'est massée pour dire adieu au Cavalieri qui s'est éteint à 86 ans. Beaucoup d'hommages, parfois contrastés, bien sûr, pour ce qu'il a représenté. Hein. C'était un homme à la fois, évidemment, de la politique. Il a occupé le premier plan pendant de nombreuses années. Il a marqué des générations, mais il a aussi, évidemment, imprégné le monde des médias, du football. Voilà, une personnalité hors norme qui s'est éteinte. Et voici cette image en direct de la cathédrale de Milan. C'est sur cette image d'ailleurs que nous nous quittons momentanément. Avant de reparler du bac, tiens, le bac version ChatGPT. Peut-être qu'on y viendra avec une nouvelle réforme à laquelle un nouveau ministre donnera son nom. À tout de suite. De retour, et avant de reprendre le débat, je propose de retrouver Mickaël Dorian pour son journal. Bonjour Mickaël.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. Emmanuel Macron est arrivé au Parc Expo de la Porte de Versailles à Paris pour inaugurer VivaTech, le plus grand salon européen de la tech. Vous le voyez sur ces images en direct, Emmanuel Macron s'y rend pour soutenir l'intelligence artificielle française ainsi que les start-up de la French Tech. Au programme de cette 7e édition, plus de 2200 exposants, des conférences de grands patrons internationaux comme notamment Elon Musk. Dans le reste de l'actualité, nouveau rebondissement dans l'affaire Karine Esquivillon, disparue depuis plus de 2 mois. L'enquête vient d'être élargie à des faits de meurtre. Son mari, qui avait déclenché l'alerte, a été interpellé par les gendarmes et placé en garde à vue à Nantes. Une perquisition est en cours à son domicile. Retour à présent sur l'agression du petit Kenzo. Lors du match Ajaccio-OM, 3 supporters de l'AC Ajaccio vont être jugés pour violence aggravée le 25 août prochain. Les 3 mis en cause, âgés d'une 20aine d'années, sont toujours en garde à vue. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que leur version diffère de celle des victimes, Christine Aluzzi.
Les 3 mis en cause ont tous donné une version des faits en très net retrait avec les déclarations constantes des victimes, notamment s'agissant des coups portés sur le père de Kenzo, a souligné le procureur d'Ajaccio en précisant que le jeune Kenzo a maintenu avoir été bousculé dans la loge. Il nie en particulier avoir commis une quelconque violence sur Kenzo, l'un des protagonistes admettant néanmoins que le ton employé à l'égard du père et leur comportement avaient pu impressionner et choquer Kenzo et son frère, détaille le procureur. Les examens médicaux réalisés sur les victimes font état d'un retentissement traumatique avéré et d'une incapacité totale de travail allant de 1 à 2 jours sur le père de Kenzo. Kenzo, son frère et leur mère, a encore précisé le procureur. Les 3 mis en cause, âgés d'une 20aine d'années, inconnus de la justice, seront jugés par le tribunal correctionnel d'Ajaccio le 25 août.
L'âge minimum d'obtention du permis de conduire va-t-il être rabaissé à 17 ans ? Il semblerait, selon nos informations, que le gouvernement l'envisage, alors qu'une proposition de loi pour rendre l'obtention du permis plus accessible, plus rapide et moins chère a été adoptée au Parlement. Alors faut-il rabaisser l'âge de permis de conduire à 17 ans ? On vous a posé la question.
Déjà 18 ans, de les responsabiliser, c'est compliqué. Donc 17 ans, ils sont encore quand même dans leur crise d'ado, donc c'est encore plus compliqué, quoi.
Les enfants sont beaucoup plus mûrs maintenant et il sait très bien conduire à 17 ans, il n'y a pas de problème.
Pour moi, il n'y a pas de souci, surtout que tous les gens qui sont en province, si jamais ils veulent se déplacer, il y a très peu de transports en commun.
17 ans, c'est peut-être pas suffisamment mûr. Un conducteur est un assassin en puissance. Donc je pense que 18 ans, c'est un bon âge pour être raisonnable, pour prendre un volant, pour prendre la route.
Nous sommes aujourd'hui le 14 juin, c'est la journée mondiale du donneur de sang. Et à cette occasion, l'établissement français du sang lance une nouvelle campagne de dons pour renouveler ses stocks avant l'été. Immersion dans un centre de dons dans le 9e arrondissement de Paris avec Fabrice Elsner et Mathilde Couvillier-Flornoy.
Récolter 110 000 poches de sang avant l'été, c'est l'objectif de l'établissement français du sang. Mais pour l'instant, les stocks sont encore insuffisants. Seules 85 000 poches ont été récoltées.
Il est très important de donner son sang avant l'été pour nous permettre de répondre aux besoins des patients qui restent toujours identiques pendant l'été. Mais les donneurs ont d'autres préoccupations. Ils s'en vont en congé. Donc c'est bien de pouvoir faire le don maintenant, dans les prochaines semaines, pour qu'on passe un été serein.
Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans, être en bonne santé et peser plus de 50 kilos. Il ne faut pas en revanche être enceinte, consommer de la drogue, avoir fait un piercing ou un tatouage et ne pas avoir été opéré dans les 4 derniers mois. Ne pas avoir pris non plus d'antibiotiques dans les 2 semaines précédant le don. Et enfin, ne pas avoir subi des soins dentaires 3 jours avant la prise de sang. Ce qui motive ces donneurs, c'est avant tout la bonne action.
Je trouve que c'est une démarche positive. Si ça peut aider des gens, si on est à côté, je pense que ça ne coûte rien de le faire, donc je le fais.
Je prends mon temps si je peux aider un petit peu, donc voilà.
Malheureusement pour Juliette, ce sera pour la prochaine fois, son taux d'hémoglobine est trop bas.
J'aurais aimé donner aujourd'hui, mais je reviendrai dans 1 ou 2 semaines si c'est possible.
Les dons de sang, plasma et de plaquettes sauvent des vies. Pour rappel, un homme peut donner son sang jusqu'à 6 fois par an et pour une femme, jusqu'à 4 fois.
Et on termine avec une bonne nouvelle. Le pape François va mieux et sortira de l'hôpital dans les prochains jours. Annonce du Vatican qui a précisé que le Saint-Père s'était bien reposé pendant la nuit et que l'évolution clinique se déroulait sans complication. Le pape a été opéré d'une hernie abdominale le 7 juin dernier à la polyclinique Gemelli de Rome. Ses audiences ont été annulées jusqu'au 18 juin. Et voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue bien sûr sur CNews. Bon après-midi en compagnie de Nelly Denac et la suite de 90 minutes info.
Merci beaucoup cher Mickaël, on se retrouve demain bien sûr pour de nouveaux rendez-vous avec l'actu. Alors on parlait de bac avec nos invités tout à l'heure et c'est encore plus intéressant de l'analyser à l'aune de l'intelligence artificielle. Alors on a procédé à un test aujourd'hui puisque voilà, les deux sont concomitants, on va beaucoup parler d'intelligence artificielle dans un instant. C'était de faire rédiger l'épreuve de philo par ChatGPT et voici ce que ça donne. Alors on a fait vraiment, on a pris quelques extraits. Évidemment, ce n'est pas tout le texte qui a été soumis par l'intelligence artificielle. La paix, on a sorti une phrase comme ça qu'on a mise en exergue. La paix peut être définie comme l'absence de conflit, de violence ou de perturbation. Merci pour cette définition. On aurait pu ouvrir le Larousse. Deuxième exemple, on va en prendre un autre. D'un autre côté, donc c'est le premier sujet, vous l'aurez compris. La justice fait référence à l'équité, à la justesse et à la correction des injustices. Bon, voilà, à moins de faire un copier-coller du Larousse, c'est pas très sorcier de passer son bac dans ces conditions. Et puis, une troisième phrase, en résumé, bien que la paix et la justice soient des idéaux interconnectés, vouloir la paix ne garantit pas automatiquement la justice, oui. Et vice-versa. C'est bien ficelé pour vous.
Il n'est pas encore tout à fait mûr pour le bac philo, ChatGPT. Je parcourais un peu le reste des phrases, c'est un peu langue de bois. Quoi.
Un petit peu quand même.
Je pense que les professeurs de philosophie aiment bien que les élèves prennent des partis pris. Et en cela, ça s'oppose un peu à ChatGPT qui fait souvent une synthèse un peu molle des concepts. Là où on aime bien les affronter, les concepts en philosophie.
Oui. Vous êtes d'accord avec lui ? En résumé, c'est encore très probant, quoi ?
Je ne suis pas d'accord.
Ah.
Parce que là, vous avez pris la philosophie qui est finalement la matière la plus personnelle. ChatGPT est meilleur que 99% des étudiants au passage du Barou, au concours de Polytechnique, au concours de l'agrégation de maths, de physique. Faites-le passer l'épreuve de Mathsup ou de Maths P ou des concours d'ENS. Il défoncera, pardon, il battra n'importe quel étudiant. Là, c'est finalement ce débat pour savoir entre ChatGPT et le
professeur. C'est plus subjectif, la philo.
C'est beaucoup plus subjectif. Ouais. Et là, ça me fait un petit peu penser à un débat entre deux auteurs britanniques en 1830 qui débattaient sur de la locomotive ou le cheval, lequel est le moyen de transport le plus élégant. Non, on s'en moque. La question, c'est de savoir lequel est le plus rapide, lequel permettra d'aller avoir le plus de performance. Alors oui, ChatGPT n'aura peut-être pas la grecque de philosophie, mais il sera capable d'envoyer des fusées sur la Lune.
Oui. Et puis cet après-midi, Raphaël Eindhoven, philosophe bien connu, planche sur la même épreuve que ChatGPT. C'est une sorte de concours. Vous vous souvenez l'époque de Kasparov, joueur d'échecs qui se battait contre
Deep Blue,
la machine. Là, ça se passe donc dans des conditions réelles pour lui, et c'est dans une école du 11e arrondissement de Paris. Vous voyez, il se met vraiment dans les conditions du réel. Je vous propose d'écouter ce petit extrait.
J'ai tendance à penser que l'exercice de la philosophie est immunisé contre l'intelligence artificielle. Voilà. Parce que ce dont la philosophie parle d'abord, c'est de l'humanité. Ce dont elle part, c'est de l'humanité. Et le viatique en philosophie n'est pas le cerveau, mais le cœur. L'organe directeur, l'organe gouvernant. La philosophie est affaire de désir avant d'être une affaire de raisonnement. Et ChatGPT peut se lever tôt et on peut lui injecter autant de critères qu'on voudra. Le désir n'est pas son affaire.
Judith, réflexion sur ce que vous entendez.
Moi,
il a raison.
Oui, il a
raison. C'est affaire de désir et non de raison.
Il a parfaitement raison pour ce qui concerne la philosophie en particulier, mais en général, je trouve que l'intelligence artificielle devient extrêmement effrayante, et je ne suis pas la seule, parce que mon avis compte peu. Je pense au cas de Geoffrey Hinton, vous savez, c'est l'un des pères de l'intelligence artificielle, qui vient de quitter Google, où il était chargé de développer l'intelligence artificielle. Sans lui, ChatGPT n'aurait pas existé. Et il vient de démissionner en disant « c'est trop dangereux pour l'humanité, il y a des risques de manipulation absolument terrifiants, que ce soit par des régimes autoritaires ou même par des entreprises, et je regrette... »
C'est un peu comme le père de Frankenstein qui regrette d'avoir créé un monstre, en fait, d'une certaine manière.
Et là, pour coup, c'est un vrai sujet de philosophie, c'est jusqu'à quand, jusqu'à quel point pouvons-nous laisser la technique s'emparer de nos vies. Et je crois que c'était Jacques Attali, je suis rarement d'accord avec lui, mais qui disait quelque chose d'assez juste à ce propos-là, et qui disait que finalement, une des plus grandes innovations de l'Occident ou de l'Europe dans son appréciation de l'intelligence artificielle, ce serait peut-être de mettre des bornes, de mettre des limites. Et je suis assez d'accord avec lui.
Alors, vous ne croyez pas si bien dire, parce que le Parlement européen a ouvert la voie aujourd'hui à Strasbourg à une forme de régulation pour limiter précisément ces risques que vous décrivez. Ils réclament de nouvelles interdictions, par exemple les systèmes automatiques de reconnaissance faciale dans les lieux publics. Il est question, en revanche, d'autoriser son usage par les forces de l'ordre dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme. Mais c'est vrai que l'IA, comme on dit communément avec cet acronyme, soulève de nombreuses questions sur le plan social, éthique et économique. Regardons ces enjeux avec Émilie Gougache.
And it is adopted.
Un texte approuvé par une large majorité des députés européens. Pour le Parlement, il y a urgence à encadrer les systèmes liés à l'intelligence artificielle, car certains présentent des risques pour la sécurité.
Je pense que vous avez tous entendu et que vous êtes probablement d'accord sur le fait que l'intelligence artificielle est trop importante pour ne pas être réglementée. Nous avons besoin que les obligations que cette loi nous donne soient une réalité sur le terrain pour que les gens soient en sécurité.
Avec ce texte, le Parlement entend bannir certaines pratiques en matière d'intelligence artificielle, notamment la surveillance biométrique, la reconnaissance des émotions ou encore les systèmes de police prédictive. Dans le viseur également, le fameux générateur de texte ChatGPT qui devra mentionner qu'il utilise l'IA.
Nous sommes les premiers à nous attaquer à une technologie qui évolue rapidement. Le minimum absolu que nous devons offrir ici est la transparence. Il doit être clair que ce contenu n'a pas été créé par un être humain.
Les États membres de l'Union européenne doivent maintenant s'accorder sur une réglementation finale. Les négociations débutent dès aujourd'hui, mais le règlement ne devrait pas entrer en vigueur avant 2026.
Alors le problème, Judith, c'est toujours un peu le même avec le Parlement européen, enfin les pays de l'Union européenne, c'est qu'ils mettent beaucoup, beaucoup de temps à s'accorder. Donc cette législation, vous la voyez à l'horizon 2025-2026
Le sujet le dit, hein, 2026 c'est déjà très très tard quand on voit la rapidité avec laquelle des groupes énormes se sont montés. Enfin c'était presque instantané en matière d'intelligence artificielle, d'une part, puis d'autre part... Il y a le fond. Quels sont les sujets sur lesquels le législateur peut intervenir? Il y a évidemment la transparence des données. Ça me paraît tout à fait essentiel comme condition à poser au système d'intelligence artificielle. Il y a les limitations. Et quand on voit avec quel insuccès le Parlement européen en particulier, mais le législateur en général, essaie de contrôler les réseaux sociaux, il n'y a aucun gouvernement qui a trouvé mieux que l'interdiction pour l'instant. Hein. Oui. C'est ou l'interdiction ou alors c'est...
Ou la porte ouverte à tout.
C'est les groupes qui animent les réseaux sociaux, enfin qui possèdent les réseaux sociaux, les plateformes qui font leur loi, qui rendent leur justice sans aucun recours possible.
Thomas Carpellini, a-t-on créé un monstre d'une certaine manière où le système va s'autoréguler de lui-même? Souvenez-vous à quel point on était inquiet à la perspective qu'Internet s'empare de nos vies. Bon, finalement, ça n'a pas été... c'est une révolution économique, culturelle, mais enfin bon... Internet n'a pas pris, possession de l'homme non plus.
Toute la question va être de savoir qui est aux commandes. Et moi, ça m'irrisse le poil de voir la Commission européenne faire ça, le Parlement européen. Ça me fait penser à cette fameuse phrase « Les Américains inventent, l'Asie produit et l'Europe réglemente ». Pourquoi sommes-nous obligés de réglementer? Car l'intelligence artificielle est vaporeuse dans l'Union européenne. Avons-nous un ChatGPT européen? Je parle même pas français, hein, mais européen. Avons-nous un OpenAI européen? Non. Aujourd'hui, le Parlement européen se réunit pour mettre des bornes. On peut l'entendre, ça ne doit pas être le Far West. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe outre-Atlantique aux États-Unis? Le Congrès est en négociation pour offrir une aide de plus de 1 000 milliards de dollars sur la table pour développer l'intelligence artificielle, car ils ont conscience que celui qui commandera l'intelligence artificielle sera celui qui imposera ses lois. Or, dans un monde où l'intelligence artificielle va devenir ubiquitaire et quasiment gratuite, si aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, la France et notamment et en particulier l'Europe ne prend pas le lead, le commandement, les manettes, on va devenir des naufragés.
Donc on ferait mieux de développer l'intelligence artificielle plutôt que vouloir la réguler. Oui, mais c'est sûr, c'est pas forcément synonyme. Vous pensez qu'il faut de toute façon quand même établir des garde-fous?
Oui, je pense. Je partage pas tout à fait votre diatribe contre les réglementations européennes, même si Dieu sait que je suis en général assez hostile aux réglementations européennes. Je pense que l'intelligence artificielle est un changement de paradigme immense, peut-être même plus qu'Internet, parce que
pour la première fois de l'histoire de l'humanité, nous allons confier, c'est la machine, qui va, disons, pouvoir se substituer à notre esprit, à notre intelligence, voire même peut-être demain à notre créativité. Et ça, nous avons mécanisé toutes sortes de choses. C'est la grande révolution de la révolution industrielle. Nous avons effectivement troqué un certain nombre de choses contre des choses, disons, beaucoup plus mécaniques. Nous sommes passés d'une agriculture où une majorité de Français travaillaient dans les labours, traçaient le sillon avec un cheval, et puis là, effectivement, bah, quand vous pouvez tracer des sillons avec des tracteurs immenses, eh ben, de fait, vous gagnez beaucoup de temps, etc. Donc, on a fait des grandes révolutions sur le métier de la main. Là, maintenant, c'est le métier de l'esprit auquel on s'attaque. Et effectivement, c'est tout de suite beaucoup plus inquiétant, beaucoup plus menaçant.
On se dit, va vers un appauvrissement intellectuel.
En tout cas, vers une très profonde mutation, parce que si demain l'IA est capable d'écrire comme Victor Hugo, comme Camus, est capable de penser nos lois, est capable de penser... Vous voyez, enfin, si, jusqu'où va-t-on finalement dans ce que nous allons confier de notre destin d'êtres humains à une machine? Et cela nécessite, si ce n'est de la réglementation, en tout cas de penser ce concept et de se dire, voilà, jusqu'où est-ce que l'on veut le confier? Et après, si nous devons faire effectivement des recherches fondamentales, moi je suis comme vous, sur les 10 big tech du monde, il n'y en a pas une seule qui est européenne, je ne dis même pas française. Donc je partage totalement votre souci d'investir là-dedans.
Mais l'autre question,
investir et penser.
Est-ce que ChatGPT maîtrise l'écriture inclusive?
Certainement. Certainement, il doit être bien meilleur que n'importe quel être.
Ah oui, parce que moi, alors voilà, pour le coup, j'en aurais besoin.
J'ai vu des adeptes de l'écriture inclusive faire des fautes grossières parce que c'est impossible alors, pour tout le monde. Pour ajouter un mot à ce que disait Paul, il y a des domaines, je pense à la chirurgie notamment, où l'apport de ChatGPT est formidable. Formidable tout simplement parce qu'il a une capacité d'absorption et de comparaison des données qu'en gros, aucun humain n'aura. Mais il y a encore des choses qui lui échappent, qui sont propres à l'expérience humaine et qui ne sont pas réductibles à des données qu'on peut introduire dans une machine aussi performante soit-elle. C'est pour ça que, pour ce qui est de la créativité, même si notre créativité dépend beaucoup de nos expériences, je suis plus optimiste que vous.
Thomas Carpini, je vous donne la parole dans un instant, mais j'aimerais qu'on aille au VivaTech. Vous savez, ça se tient porte de Versailles. Et c'est intéressant que cette décision du Parlement européen coïncide avec l'ouverture de ce temple des nouvelles technologies que visite d'ailleurs, enfin, auquel se rend Emmanuel Macron aujourd'hui. Bonjour Florian Tardif. Il sera énormément en question des enjeux économiques. Précisément de ce dont on parlait sur le plateau, de l'intelligence artificielle qu'on voit dans à peu près tous les domaines qui sont présentés et représentés aujourd'hui.
Et oui, Nelly, vous l'avez compris, l'intelligence artificielle est au cœur des débats sur votre plateau et est au cœur des discussions ici au salon VivaTech avec ces deux défis et ces deux objectifs pour répondre justement à ces défis affichés par le président de la République. Le premier d'entre eux est de ne pas dépendre justement des puissances étrangères. Vous y avez fait référence à l'instant avec vos invités. L'intelligence artificielle, vous l'avez très bien compris, va avoir un impact dans quasiment tous les domaines, de la santé à la défense, m'expliquait il y a quelques jours un des conseillers du président de la République. Il faut être capable ainsi de développer nos propres technologies ici sur le sol français ou bien au niveau européen. Et le deuxième défi, vous en avez parlé brièvement à l'instant, est celui du contrôle, de l'encadrement de ces nouvelles technologies, alors que deux tiers des Français estiment que potentiellement l'intelligence artificielle représente une menace pour notre monde. Selon un sondage Odoxa qui a été publié hier, il y a certes cette réflexion qui est engagée au niveau européen avec l'IA Act, c'est-à-dire que les choses avancent, certes, au niveau européen pour tenter d'encadrer justement ces nouvelles technologies. Le président de la République devrait revenir lors d'un discours tout à l'heure sur cela. Il devrait également annoncer, vous avez abordé la question à l'instant, un plan de financement pour permettre justement aux chercheurs français de développer ces nouvelles technologies sur l'intelligence artificielle.
Merci beaucoup et merci à Thibault Marcheteau, Florian Thibault qui vous accompagne aujourd'hui, porte de Versailles. Alors, Éric Dorilmaten du service Éco nous a rejoint. Bonjour Éric.
Bonjour.
On va peut-être commencer là-dessus. Tiens, le plan de financement, en quoi ça consisterait? Est-ce qu'on a beaucoup de retard? Est-ce qu'on a accumulé beaucoup de retard sur la question en France et puis plus largement en Europe?
Non, la France est en avance. Hein.
Ah oui,
dans le plan de France Relance, hein, y a énormément d'argent prévu. Vous savez, la fameuse Startup Nation. Et ça, je pense que c'est pour ça, quand on dit il faut trop encadrer l'intelligence artificielle, il faut s'en méfier, il faut faire... Ce serait une erreur de trop la bloquer parce que d'autres pays le feront, de toute façon. Vous l'avez dit, les États-Unis sont très en avance. Mais nous, on est pas mal. On a des entreprises comme Atos qui sont vraiment très en avance. Je regardais tout à l'heure, vous avez des entreprises comme Thales, comme Safran. Et puis c'est vrai que dans le médical, on fait des opérations à distance maintenant avec l'intelligence artificielle. On est capable de piloter une personne est malade à Los Angeles. Vous pouvez avoir un grand ponte en France qui va piloter de l'opération. L'intelligence artificielle, elle va aussi décrypter les radios. Est-ce qu'encore c'est utile aujourd'hui les scanners, les IRM, d'avoir un médecin qui regarde, qui dicte un compte rendu? Ce médecin, il fera autre chose pour interpréter les images. Et pendant ce temps, le chat GPT pourra, lui, automatiquement déduire. Là, j'ai rencontré une entreprise très intéressante qui, elle, est en train de faire des essais en laboratoire. C'est fini le laboratoire dans les éprouvettes. Maintenant, ça se fait en digital, en numérique. Donc, ils accélèrent la recherche. On gagne un temps fou. Souvent, les médecins vont sur une fausse piste. Et bien, grâce à l'intelligence artificielle, ils vont se concentrer sur l'essentiel.
Est-ce que ces produits sont commercialisables au même titre que ChatGPT ?
La société Arkemia qu'on avait rencontrée dans le cadre de BPI France, Maximilien Lévesque, il est extraordinaire. Vous l'écoutez, vous êtes bouche bée. Ça veut dire qu'en France, on a un vrai savoir-faire. On est envié quand il va chercher des prix en Californie. Ah, c'est des entreprises françaises qui sont tellement en avance, on n'en revient pas.
On a des super idées.
C'est vrai.
Ensuite,
vous avez tous raison, le chat GPT, il faut s'en méfier. Parce que là, effectivement, d'abord, je pense qu'il y a l'homme derrière, contrairement à ce qu'on croit, les réponses toutes faites, le robot qui tchatche, etc. Il faut se méfier, parce qu'on vous influence une pensée, et là, il faudra l'encadrer. La reconnaissance faciale, je trouve ça dommage de l'avoir interdite pour les Jeux Olympiques. Parce que grâce à ça, on aurait pu repérer les éléments perturbateurs et se dire, tiens, attention, lui, il est fiché S, par exemple. Ça va être encadré. Et après tout, vous savez, la reconnaissance faciale, elle existe en Israël. Ça, ils ne se gênent pas, eux, pour aller voir qui passe le long des frontières ou qui est prêt à faire un attentat. Ils repèrent tout de suite, hop, les gens sont interceptés. Et ils ont raison.
Thomas Carpellini pour la réponse.
Exactement, il est là l'écueil de la réglementation européenne. C'est que l'Europe pourra réglementer tout ce qu'elle veut. Si les États-Unis et le monde asiatique n'embrayent pas le pas, l'Europe aura beau mettre les murailles qu'elle veut, l'intelligence artificielle trouvera toujours, enfin, les porteurs d'intelligence artificielle, ChatGPT, les firmes qui sont derrière, trouveront toujours le moyen de rentrer dans toutes les failles possibles et inimaginables. Maintenant, la question qu'on doit mutuellement se poser, c'est est-ce que nous sommes là dans une vision passéiste, défaitiste? Nous avons raté le wagon. Alors que nous avons des joyaux, et vous avez entièrement raison de le rappeler, où est-ce qu'on arrête de se faire peur, on accepte de prendre à bras le corps la révolution industrielle, économique, philosophique que ça arrive, parce que dans tous les cas, qu'on le veuille ou non, elle va s'imposer à nous. Plus rien, demain ou après-demain, que ce soit la ChatGPT 4, 5, 6, 7, ne sera pareil. Aujourd'hui, on vient de réinventer l'imprimerie, on vient de réinventer la machine à vapeur.
Vous vous dites, allons-y franco? Comme oui.
Non, je dis vraiment, veillons aux deux. C'est pas une fois que l'intelligence artificielle aura atteint un niveau de développement où elle sera absolument incontrôlable qu'on se grattera la tête en se disant j'aurais dû légiférer sur tel ou tel sujet. Il faut vraiment développer les deux de concert. Bon, sachant que évidemment, je ne suis pas sûre qu'au Parlement européen, qui est le lieu des lobbies, ce soit le meilleur endroit pour élaborer une législation efficace, dans un sens comme dans l'autre. D'ailleurs, ça peut être très anti ou très pro, mais en tout cas, c'est pas le bon endroit.
Et sur la reconnaissance faciale, l'Autriche est pour. Elle a déjà ses fichiers qui sont tout prêts.
Mais de toute façon, la reconnaissance faciale, vous avez déjà. Les policiers ont des photos des.
Ouais. Mais on n'ose pas l'appliquer, on n'ose pas
l'utiliser. Mais après, ils regardent avec leur. Vous savez, de libertés individuelles.
Mais quand vous n'avez rien à vous reprocher, c'est.
Attention aussi à ne pas aller trop loin sur cette.
Faites attention à la logique du. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez rien à cacher, vous connaissez l'expression.
Bien sûr.
Non, je pense qu'il faut être très prudent et qu'il faut en retirer la substantifique morale, ce qui créerait un bienfait pour nos sociétés. Parler des opérations effectivement à distance, ça par exemple, je dis de parler de la médecine, mais je suis tout à fait prêt. En revanche, sur la question du contrôle des masses, du contrôle populationnel, je trouve que moi l'Europe est plus innovante que par exemple nos amis asiatiques et qu'un certain nombre de pays asiatiques, notamment Singapour, qui avait développé des robots policiers qui pendant le Covid se déplaçaient pouvaient vous fliquer comme ça et mettre des cris stridents pour faire éloigner les gens. Ça par exemple, j'appelle pas ça de l'innovation, même si le robot policier il a l'air tout à fait moderne. Donc je me méfie et je me méfie de cette histoire de reconnaissance faciale aussi pour tout vous dire. Je sais que le Sénat a voté là-dessus il y a quelques jours. Je sais aussi qu'on le présente comme un outil qui va être mis au service de la lutte contre le terrorisme, etc. Évidemment, certaines innovations parmi les pires pour nos libertés individuelles se drapent toujours au nom du bien,
au nom de la préservation.
Remplacer voilà. Un être humain derrière son guichet qui a des photos de terroristes, là où il existe encore des frontières.
Mais vous savez, comme moi, Judith, que ça va commencer par la lutte antiterroriste.
Oui, bon, la revolution spatiale, ça existe déjà avec Paraf, hein, quand vous montrez votre... Oui, aussi, ou quand vous montrez votre passeport dans les aéroports.
Moi, je suis prêt à tenir les paris avec vous, qu'on commence pour la reconnaissance faciale pour des idées de terrorisme et de criminalité, que dans quelques temps, vous aurez un simple contrôle de police, on vous dira, allez hop, monsieur, reconnaissance faciale, c'était bien.
Mais le contrôle facial, on l'a déjà tous avec nos téléphones.
Oui.
On a tous avec ceux qui l'ont choisi, soit possédé par Google.
Qui l'ont choisi, c'est la
de faire. Allez, ce débat est passionnant, mais malheureusement, on doit l'interrompre ici. Merci beaucoup, Eric, d'être passé parmi nous. Dans un instant, on parlera de cette disparition mystérieuse. Hein, vous le savez, il y a 2 mois, de cette mère de famille âgée de 54 ans en Vendée. Eh bien, aujourd'hui, un nouveau rebondissement, parce que son mari a été interpellé et placé en garde à vue. On fera réagir un criminologue. À tout à l'heure. Nous sommes de retour et place à l'info en compagnie de Somaïa Labidi. À nouveau, rebonjour Somaïa.
Fin de l'audition de Marlène Schiappa par la commission d'enquête du Sénat. Elle dément avoir favorisé la principale association bénéficiaire du fonds Marianne qu'elle a lancé au printemps 2021. Dans le même temps, Mohamed Sifaoui a été entendu par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. La veille, c'est son domicile qui était perquisitionné. Inauguration du salon Vivatech en présence du chef de l'État. Emmanuel Macron doit y présenter un plan pour soutenir l'intelligence artificielle française et plus globalement les start-up de la French Tech. Au programme de cette 7e édition du plus grand salon européen de la tech, plus de 2200 exposants, des conférences de grands patrons internationaux et 10 000 représentants d'entreprises. Et puis à 3 mois du mondial, le rugby français désigne enfin son nouveau patron. Florian Grill, chef de file du collectif Oval Ensemble, a été élu à 58,14% par les quelques 1900 clubs français. L'homme d'affaires est un opposant de longue date de Bernard Laporte, dont les proches soutenaient la candidature de Patrick Buisson, largement battu.
Merci beaucoup. Toujours en compagnie de Judith Vintraube, Thomas Carpellini et Paul Melun autour de cette table. 2 mois après la disparition mystérieuse, il faut bien le dire, de Karine Esquivillon, cette mère de famille âgée de 54 ans, en Vendée, son mari a été interpellé et placé en garde à vue ce matin. On a appris un petit peu plus tard que l'enquête avait été élargie à des faits de meurtre, donc c'est en train de prendre quand même une toute autre tournure, ce qui ne surprend pas franchement le criminologue Jean-Pierre Bouchard que je vous propose d'écouter.
Ce sont des schémas, des configurations donc, de disparition qui sont connues, hein, qui reviennent de temps en temps. Ceci dit, elles ne sont pas si fréquentes que ça, mais elles sont quand même récurrentes dans le temps. Évidemment, les éléments communs, tout le monde l'aura noté, c'est le fait qu'il n'y ait pas de victimes physiques retrouvées, dans quelque état que ce soit. Le fait que les enquêteurs donc, pointent ou entendent le mari, qui, là, dans ce cas-là, avance des versions différentes.
Bon, Thomas Carpellini, vous êtes le seul juriste autour de cette table. Non, mais c'est vrai que les affaires récentes, malheureusement, il y a déjà des parallèles à adresser avec quelques affaires, sans qu'on sache évidemment si, pour l'instant, voilà, il est placé en garde à vue, donc pas mis en examen. Hein, on verra la suite de cette affaire. Mais les dernières affaires connues étaient quand même de cet ordre-là. Il y avait quelque chose, en tout cas, les suspects principaux étaient dans la sphère intrafamiliale.
Bon, ça a été, somme toute, souvent le cas, tout temps, dans tout espace, à toute époque. Les trois choses qu'il faut pour le moment retenir, la première, c'est la qualité de nos services d'enquête. Qu'elle soit de la gendarmerie ou de la police, quand on se rend compte que, bien que le temps passe, que les mois filent, que les semaines s'allongent, ils continuent toujours de trouver quelque chose, que ce soit de nouvelles preuves sur le plan probatoire ou de nouveaux témoignages ou de nouveaux mobiles. La deuxième chose, c'est évidemment, attendons les conclusions de l'enquête, même à ce stade. Une audition n'est pas une mise en examen, qui n'est pas un renvoi devant le juge d'instruction, qui n'est pas une ordonnance de mise en accusation, qui n'est pas une accusation, qui n'est pas une condamnation. Donc encore, le temps judiciaire est loin d'être terminé, bien qu'il a pu, à une certaine manière, s'accélérer. Et finalement, la troisième chose, c'est évidemment, peut-être que dans les temps qui courent, avec la multiplication de ces faits divers, se méfier. C'est peut-être triste de le dire comme ça. Mais quand vous allez vous promener dans les bois la nuit, envoyez peut-être un message à votre compagnon, à votre famille, à vos amis.
Lui qui l'a...
Sauf si c'est lui.
Oui, ça dépend du compagnon.
Évidemment, ça dépend du compagnon. Je ne suis pas sûr que Mme Daval ça lui aurait servi à grand chose. Mais voilà, prenez vos plus grandes précautions, car malheureusement, aujourd'hui, quand on voit la multiplicité des faits divers, il peut y avoir peut-être une petite tendance à s'inquiéter.
Alors, petite précision concernant cette affaire en particulier. Hein, des perquisitions sont menées aujourd'hui au domicile familial pour voir s'il y a éventuellement des éléments qui pourraient le confondre. Et on va vite voir, toujours selon Jean-Pierre Bouchard, si les incohérences de ce qu'il dit, de ce qu'il confie aux enquêteurs, c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé jusqu'ici, ressortent.
Si, comme il l'a fait jusqu'à maintenant, on a affaire à quelqu'un qui parle... pas mal, voire qui parle beaucoup, voire qui parle de façon différente suivant les interlocuteurs. Donc conservera-t-il cette attitude ? Auquel cas, en parlant, il va livrer déjà des premiers éléments et ensuite les enquêteurs, en général, pointent certains éléments du dossier qui sont de leur connaissance, les incohérences des propos tenus par le gardé à vue, etc. Et en parallèle, évidemment, ce qui ressort des témoignages divers et variés, plus ou moins proches du gardé à vue donc, ou de la victime, sont pris en compte, évidemment.
Paul Melun, peut-être aussi voilà, souligner à cette occasion le travail compliqué des enquêteurs et le fait qu'ils soient très persistants, qu'ils soient...
Oui, c'est intéressant. C'est intéressant ce qui vient d'être dit aussi par M. Bouchard, parce qu'il y a aussi le sujet du mutisme ou non de la personne qui est interrogée. C'est que très souvent, lorsqu'on entend dans des enquêtes les forces de police ou les gendarmes, les enquêteurs, interroger un certain nombre de personnes qui sont suspectes, quand celles-ci s'enferment dans le mutisme, c'est extrêmement difficile. Tandis que là, si après tout, il est plutôt bavard, il est assez loquace, ça permet de détecter assez facilement s'il y a un certain nombre d'incohérences, s'il y a un certain nombre de choses qui ne collent pas, disons, avec les preuves qui vont être recueillies par les enquêteurs.
On revient sans cesse aux questions. On interroge plusieurs fois les suspects. C'est ça aussi l'objet et la technique de l'interrogatoire, Judith.
Oui, bien sûr. Alors, je n'ai pas de statistiques, mais il me semble que dans le cas où c'est le conjoint qui commet le crime, ils sont plutôt bavards. Il y a plutôt une histoire. Je pense évidemment à l'affaire d'Aval. Ils ont construit quelque chose, puisque... ce qu'on dit dans ce genre d'affaires, c'est d'abord le mari. On regarde d'abord si c'est lui le coupable. Et le mutisme est en général une mauvaise défense quand on est le coupable le plus fréquent. Mais encore une fois, je ne connais absolument rien à ce dossier, donc il n'est pas question d'avoir une opinion.
Dans une affaire qui n'a rien à voir, mais qui nous a malheureusement beaucoup occupé ces jours-ci, à savoir ce qui s'est passé à Annecy, le fait que le principal suspect, en tout cas l'individu qui est auteur de l'attaque, se soit enfermé dans le mutisme, n'a pas forcément facilité le travail des enquêteurs, en tout cas au début,
non, quand ils l'ont mis en garde à vue. Non, mais il se trouve qu'il n'y avait pas de doute sur l'acte, ni sur celui qui l'avait commis.
Oui, mais enfin, c'est quand même intéressant pour faire la généalogie de son geste, comprendre son parcours.
Tout à fait.
Voilà, donc,
mais en tout cas...
Il y viendra peut-être. Absolument. Voilà, on voulait quand même vous soumettre ce fait d'actualité parce que c'est quelque chose qui nous a aussi occupé nos équipes. Et voilà, il y a quand même ce retournement de situation qui pourrait vraiment, pour le coup, changer complètement l'enquête et ce vers quoi elle se dirige. Je ne voulais pas vous quitter avant de parler des soulèvements de la Terre. Soulèvements de la Terre qui sont passés à nouveau à l'action ce week-end, ça ne vous a pas échappé, en région nantaise. Les images choquent à peine au fond. On a l'impression que voilà, tout passe. Le terme d'éco-terrorisme réfuté par les auteurs de ces faits revient pourtant assez souvent. Alors y a-t-il deux poids, deux mesures ? Pourquoi cette association dont Gérald Darmanin a promis la dissolution passe-t-elle encore à l'action ? Écoutons Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique qui était notre invité ce matin.
Il y a évidemment un pilote d'un avion, je ne suis pas le ministre de l'Intérieur, encore moins la Première ministre. La seule chose que je peux dire, c'est qu'un événement comme celui de dimanche, qui a provoqué y compris la consternation de membres du GIEC qui l'ont condamné, d'écologistes qui l'ont dénoncé, je pense que ça illustre le fait qu'il ne suffit pas de prétendre défendre une cause pour le faire de manière sérieuse, et que même derrière des principes, des valeurs qui sont censées être portées en étendard, il y a des comportements qui sont inacceptables, qui doivent être condamnés et qui, effectivement, pourraient conduire à des interdictions.
Donc vous demandez la dissolution des soulèvements de la Terre, soyons très clairs.
Je ne suis pas le ministre de l'Intérieur, je comprends. Non, mais très clairement, ce qui s'est passé dimanche est inacceptable, ne peut pas rester impuni, et on ne peut pas accepter en République d'avoir des gens qui décident ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, qui font des intrusions dans les usines, qui font des intrusions dans les serres, qui s'en prennent à la propriété d'autrui. C'est le début du délitement de la République, ça n'est pas acceptable.
Pardon, Judith, mais depuis Sainte-Soline, nous, on pensait, ça remonte un petit peu, on pensait que c'était déjà fait. Hein. Beaucoup pensaient que c'était déjà
alors,
fait.
Gérald Darmanin aussi, figurez-vous, parce que le Figaro a mené l'enquête. Le ministre de l'Intérieur a rempli le dossier, y compris avec les réponses des soulèvements de la Terre. Tout est prêt, tout est à Matignon et tout est bloqué par Elisabeth Borne qui, aux surprises, ne semble-t-il pas envie d'être celle qui va tenter une action en justice contre les soulèvements de la Terre.
Donc vous êtes en train de nous dire que c'est à Matignon que ça bloque.
C'est à Matignon que ça bloque. Et
une forme de complaisance.
C'est vraiment pas surprenant puisque, rappelez-vous, quand un groupe d'activistes écolos avait voulu perturber une assemblée générale des actionnaires de Total en bloquant l'entrée, elle avait trouvé globalement que c'était très, très bien et que c'était formidable d'avoir ce degré de conscience. Elisabeth Borne, c'est une femme de gauche ou en tout cas issue de la gauche et elle le prouve y compris sur le dossier des soulèvements de la Terre.
Paul Melun, sur les intrusions, sur les actions qui sont menées, est-ce que, pour reprendre la question que j'avais tout à l'heure, est-ce qu'il y a vraiment, on s'offusque sur les obstructions, la disruption comme ça à géométrie variable, c'est-à-dire que au nom d'un idéal, parce que la cause a priori défendue est noble, tout passe.
Ah bah, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, pas chez certains analystes, et j'en fais partie de ceux qui condamnent, disons, les violences, les intrusions dans des propriétés privées ou le saccage d'un certain nombre d'exploitations agricoles. Moi, je suis en plus fils d'agriculteur, donc c'est vrai que je sais le travail que c'est de monter une serre, de tout préparer, de préparer ses cultures. Effectivement, quand on voit des gens saccager le travail d'autrui, on est un peu en colère, voire très en colère. Et j'imagine que ceux qui ont contribué à planter ces cultures, à monter la serre, sont encore plus en colère que moi. Donc ça, c'est une évidence. Maintenant, sur l'indignation à géométrie variable, il est vrai que chez certains, et je ne donnerai ici aucun nom, aucune adresse, mais chez certains, probablement que si ces personnes-là s'étaient mobilisées, je dis n'importe quoi, en disant par exemple, voilà, abat l'immigration, etc., là on aurait droit à, voilà, c'est la peste brune, c'est terrible, l'extrême droite est aux portes du pouvoir, etc., etc. Là, c'est quand même silence radio d'une bonne partie de la classe politique qui considère, ma foi, que la cause étant juste, on peut se permettre de saccager chez les gens. Je ne pense pas. Et je suis d'autant plus, si vous voulez, indigné par cela, que moi, je suis profondément écologiste et que je pense précisément que les sujets de l'écologie politique sont fondamentaux. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas les confier, ces sujets-là, à des militants de l'écologie radicale qui, pour beaucoup d'entre eux, sont des activistes, mais ne proposent en général absolument rien. Quand vous les interrogez, les dics tombent. Et encore, mais c'est vrai, mais beaucoup de mesurettes. C'est-à-dire, quand vous leur demandez un peu ce qu'ils veulent, les masques tombent. Quand vous dites, mais vous ne voulez pas, je prends un sujet d'actualité, vous ne voulez pas qu'on fasse l'extraction du lithium, par exemple, dans le nord-est de la France. Mais pourtant, vous voulez tout électrique. Alors, comment on fait ? On recycle les batteries des téléphones. D'accord, ça ne suffira pas. Comment on fait ? Voilà, vous n'avez jamais de réponse.
Donc ils ne sont pas suffisamment techniques et pointus sur la question qu'ils prétendent défendre.
Il y a des écologistes très techniques, comme Jean-Marc Jancovici, par exemple, ou d'autres. Mais eux, ils ne sont pas dans la rue en train de ficher en l'air les serres des gens qui travaillent. Donc, si vous voulez, il y a une écologie du sérieux et du travail.
Des serres expérimentales, précisément, pour une...
Alors voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que la cause est-elle si juste que ce que le mouvement prétend, dans le sens où les agriculteurs concernés par ces destructions ont dit, mais nous... On pratique une écologie vertueuse qui tient compte justement du non-emploi. Enfin, on essaie au maximum d'éviter l'emploi des pesticides. Donc, parfois, on se dit,
c'est totalitaire.
En plus,
parce que des projets décroissants qui conviendraient à ces activistes écolos, ou en tout cas qui iraient dans le sens de ce qu'ils prônent, sont défendus par des candidats à la présidentielle. Les Français ont l'occasion de se prononcer, et à chaque fois, ils les rejettent.
Thomas Carpellini.
Moi, j'entends évidemment les critiques que vous avez faites, Paul Melun, aux politiques et aux essayistes et aux commentateurs, et vous avez entièrement raison. Mais moi, j'aimerais bien savoir où sont les magistrats là-dedans. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, des Vélib, il y avait eu une campagne d'un mouvement pro-vie contre l'avortement. Il n'y avait pas de vidéosurveillance, il n'y avait pas d'identification de visage, et pourtant, en quelques heures, le parquet de Paris avait été saisi et une enquête avait été ouverte. Là, on a des vidéos, on a des enregistrements, on a des photos, on a des visages. Pourquoi il n'y a pas eu d'article 40, c'est-à-dire un signalement au procureur de la République pour forcer, entre guillemets, lancer une enquête? Pourquoi la préfecture de l'endroit où cela se passe, de Loire-Atlantique, oui, n'a pas fait un article 40 pour ester en justice? Pourquoi le procureur de Loire-Atlantique n'a pas fait un signalement pour ester en justice? C'est un petit peu fatigant, ce deux poids, deux mesures. Car vous avez entièrement raison. Si ça avait été des jeunes Zemmouriens qui avaient été sur un centre de migrants pour faire exactement la même chose, déchirer des banderoles où des rideaux, il y a eu des cris d'orfraie.
Les fascistes à nos portes.
Les fascistes à nos portes. Donc je commence à en avoir un petit peu marre du fascisme vert et de, surtout de cette complaisance dans toutes les strates de la société, qu'elles soient politiques, journalistiques et juridiques.
Je vais vous faire écouter Olivier Véran qui, à l'Assemblée, lui aussi a dit « tout n'est pas excusable, quel que soit le message qu'on veut véhiculer ». Et vous verrez, après cette prise de parole, on comprend assez aisément dans l'hémicycle que Gérald Darmanin ne pourra pas faire autrement que de dissoudre, ou en tout cas Elisabeth Borne.
Essayer de dissoudre et ensuite il se prendra une action en justice.
Eh bien, on verra quelle en sera l'issue. Mais écoutez, Olivier Véran, avant de se quitter.
Et les pires encore, madame la députée, on n'aime pas la terre, on n'aime pas non plus les humains. Lorsqu'on organise des manifestations interdites à laquelle on convie des militants violents étrangers dont le seul objectif est de s'en prendre aux forces de l'ordre et au respect de la République. Madame la députée, nous partageons, le gouvernement partage votre indignation, partage vos marques de soutien à destination de tous les agriculteurs de ce pays. S'indigne avec vous de la présence parfois sur ces lieux et en lien avec cette association d'élus portant l'écharpe tricolore ou comme élus locaux ou comme élus nationaux. Et madame la députée, je vous rappelle qu'à la demande du ministre de l'Intérieur, un dossier a été monté en vue de procéder à la dissolution de cette association du soulèvement de la terre si les conditions sont réunies.
Il souligne quelque chose d'intéressant, tout cela avec le blanc-seing des élus de la NUPES, de la, élus de la nation quand même.
Oui, et on parle du fameux dossier qui est sur le bureau d'Elisabeth Borne. Mais au-dessus d'Elisabeth Borne, il y a Emmanuel Macron. Et lui aussi est totalement dans l'ambiguïté vis-à-vis de ces mouvements activistes.
Et je me souviens que quand Gérald Darmanin avait dit qu'il voulait dissoudre Génération Identitaire, ça n'a pas traîné.
Ah oui, là, ça a été fait dans les semaines, les jours qui ont suivi même.
Oui, tout à fait, avec une grande efficacité. Maintenant, il faut aussi se méfier des effets des dissolutions. C'est-à-dire que, bon, si est prononcée
si
la dissolution,
autrement...
voilà, ça renaîtra sous une autre forme. C'est-à-dire qu'on ne va pas dissoudre les militants et les activistes qui prônent cette écologie radicale ou violente. De fait, ils continueront à exister, ils s'organiseront différemment. Ce qu'il faut, c'est les combattre aussi intellectuellement, politiquement, prouver que ce sont des fossoyeurs de l'écologie et que la vraie écologie de terrain, de combat intellectuel, elle ne se place pas là, qu'elle se place avec les agriculteurs et pas contre eux.
Pour l'instant, il n'y a pas grand monde en face.
Et là, il n'y a pas grand monde parce que si vous voulez qu'Emmanuel Macron, par contre, dans son programme écologique, puisse décevoir un certain nombre de jeunes ou de moins jeunes qui sont très soucieux de la question écologique, on l'entend et moi je l'entends très bien.
Mais à droite, on essaie de se lancer sur ces questions. Enfin, on pense même au RN qui essaie
oui,
de.
Mais moi, je fais partie de ceux, j'ai entendu, je crois, Hugo Clément qui l'a dit aussi, j'étais assez d'accord avec lui. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que toute personne est la bienvenue sur le terrain de l'écologie. Et que ça suffit de préempter le sujet de l'écologie en disant non, c'est un sujet de droite, de gauche, pardonnez-moi. Et si la droite s'empare de ce sujet, voire pire, le Rassemblement national, c'est qu'ils le traiteront très mal. Non, plus on est nombreux à alerter sur les risques du réchauffement climatique, du changement climatique, et à essayer de travailler des propositions, mieux c'est pour l'humanité.
Merci beaucoup. Merci à tous les trois. On marque une petite page de pub et puis on se retrouve pour dire bonjour à Laurence Ferrari.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.